le journal. Benoît Bouscarel, bonsoir Benoît.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Régler la question du terrorisme en Syrie dans un esprit de coopération, c'est ce à quoi se sont engagés la Russie, la Turquie et l'Iran tout à l'heure lors d'un sommet à Téhéran. Les trois puissances les plus directement impliquées dans le conflit syrien semblent s'être engagées, mais à quoi précisément? Tentative d'éclaircissement par Éric Biegala dans un instant. En Allemagne, y a-t-il vraiment eu une chasse à l'homme collective dirigée contre des migrants en représailles à un meurtre fin août à Chemnitz en Saxe? En mettant en cause la sémantique autant que la crédibilité d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, de plus en plus de voix remettent en cause la version officielle des événements, notamment celle d'Angela Merkel, une nouvelle fois en difficulté. Donc, Ludovic Piétenu nous attend en direct de Berlin. L'actualité en France, dans ce journal, elle est essentiellement politique. Nous irons à Marseille où Emmanuel Macron reçoit justement la chancelière allemande pour lancer la campagne européenne. Et puis, au sommaire de ce journal également, l'enquête du service investigation de Radio France sur le business des faussaires low cost dans le monde de l'art. Ce sera avec Philippe Reltien. Il est bien difficile ce soir de lire entre les lignes en ce qui concerne le sort de la région d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie. Après la réunion qui s'est tenue à Téhéran dans l'après-midi entre Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rouhani, on ne sait pas avec certitude ce que chacun peut avoir réellement en tête et quelle partition chaque diplomatie jouera réellement dans les préparatifs de la grande bataille à venir pour la reconquête du territoire syrien. Chaque parti aujourd'hui a semblé camper sur ses positions. Russes et Iraniens voulant frapper fort et vite pour mettre un terme à la rébellion. Les Turcs en appelant de leur côté au cessez-le-feu. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Benoît.
Ce mini-sommet n'aura visiblement pas vraiment permis d'avancer. Et finalement, Russes, Turcs et Iraniens disent s'être mis d'accord sur l'éradication du terrorisme dans un esprit de coopération caractérisant, je cite, l'esprit d'Astana. Qu'est-ce à dire, Éric ?
Eh bien, en clair, ça signifie qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, de trêve, de cessation des hostilités, appelez ça comme vous voulez, sur les lignes de front d'Idlib. Ce sommet de Téhéran était, à vrai dire, assez inédit dans sa forme. Les délégations des trois présidents, turcs, russes et iraniens, ont siégé ensemble pendant une petite heure, leur discussion étant retransmise avec traduction instantanée par la télévision iranienne Presse TV. On y a vu notamment le président turc, Recep Tayyip Erdogan, suggérer par trois fois d'inclure un appel au cessez-le-feu dans la déclaration finale publiée à la fin du sommet. Et à chaque fois, un Vladimir Poutine lui répondre poliment, mais à la fin un peu fermement et sous le regard amusé d'Hassan Rouhani, qu'inclure un cessez-le-feu dans la déclaration finale, ce n'était pas possible, que ni la Turquie, ni la Russie, ni l'Iran ne représentaient les belligérants syriens et qu'ils n'étaient donc absolument pas en mesure de proclamer un cessez-le-feu. En toute logique, l'offensive sur Idlib devrait donc commencer incessamment. Hier encore, la presse du régime à Damas mentionnait la date du 10 septembre, c'est-à-dire de lundi, pour un début d'attaque sur la province. Depuis ce matin, d'ailleurs, les raids de l'aviation russe ont repris sur le sud d'Idlib, autour de Khan Cheikhoun, la même où un bombardement chimique avait tué plus de 80 personnes en avril de l'année dernière. Au Conseil de sécurité à l'ONU, la situation d'Idlib est également discutée. En ce moment même, le représentant spécial pour la Syrie, Stéphane de Mistura, a encore une fois plaidé pour la mise en place de corridors humanitaires qui permettraient aux civils d'évacuer l'enclave vers le sud ou vers l'est, c'est-à-dire vers le territoire tenu par le régime, vers le nord ou vers l'ouest, c'est-à-dire vers le terrain contrôlé par l'armée turque ou vers la Turquie elle-même lorsque l'offensive sera lancée tous azimuts. Mais pour ce faire, il faudrait que les belligérants s'accordent et qu'il s'agisse des Turcs, des Russes ou des Iraniens, sans oublier le régime syrien, personne ne semble vouloir envisager de tels corridors humanitaires pour le moment.
Merci Éric Biegala. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel se trouve depuis plusieurs jours face à un nouveau front qu'elle n'avait probablement pas vu venir. Alors que, sur la foi d'une vidéo tournant sur les réseaux sociaux, elle avait vigoureusement dénoncé des chasses à l'homme collectives dans la région de Chemnitz, la voilà contredite. Alors question ce soir, se pourrait-il que ces actions de représailles après la mort d'un homme de 35 ans à la fin du mois d'août pour laquelle deux réfugiés sont poursuivis, se peut-il que ces représailles n'aient pas réellement existé? Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Benoît.
Vous êtes en direct de Berlin, vous êtes notre correspondant permanent en Allemagne. Alors depuis plusieurs jours, des personnalités du monde du renseignement et plusieurs autorités de Saxe affirment qu'ils ne disposent pas de preuves effectives qu'une chasse à l'homme collective ait bien eu lieu. Et dans ce débat, Ludovic, les mots ont toute leur importance.
Oui, il y a de bonnes raisons de croire qu'il s'agit d'une fausse information. Quand c'est le patron des renseignements intérieurs allemands qui le dit, sa personne et sa qualité font autorité. Monsieur Massen, connu pour sa critique acharnée de la politique d'Angela Merkel à l'égard des réfugiés, donne ainsi raison au ministre-président de CDU du Land de Saxe, où se trouve Chemnitz. Michael Kretschmer, ce jeune loup de la classe politique allemande et du parti de la chancelière, ne peut pas croire que ses électeurs se soient livrés à une telle manifestation de haine. Lui qui, dans un an, devra faire barrage au parti d'extrême droite AfD lors d'élections régionales, surveille son langage. En mettant en doute cette vidéo, le patron des renseignements donne également quitus au ministre de l'Intérieur, lui aussi très dur, on le sait, sur la question de l'accueil des réfugiés, le bavarois Horst Seehofer, allié CSU turbulent de la chancelière. Et c'est donc elle et son porte-parole qui, en parlant de chasse à l'homme xénophobe, se retrouvent a priori désavoués. Mais l'histoire n'est pas terminée, d'abord parce que l'enquête autour de cette vidéo continue, ensuite parce qu'il y a des plaintes déposées par plusieurs étrangers. Ensuite, parce qu'un journaliste local a décrit ces scènes bien plus largement que ce que l'on voit sur la vidéo, même si ce journaliste refuse d'employer cette expression de chasse à l'homme. Le porte-parole du procureur local coupe court ce soir au débat sémantique. Ce n'est pas un terme juridique. Les politiques peuvent le dire, ça les regarde. Notre travail à nous, c'est l'application de la loi.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin pour France Culture. Un échec cet après-midi pour Federica Mogherini qui ambitionnait de faire entrer en communication dirigeants serbes et kosovars. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères voulait évoquer lors d'une réunion à Bruxelles un échange de territoire entre les deux pays. Mais les présidents Hashim Thaçi pour le Kosovo et Aleksandar Vučić pour la Serbie se sont royalement ignorés. Ce qui a fait dire pudiquement à Federica Mogherini que des difficultés persistent dans le dossier réunion annulée. De bons chiffres économiques aux États-Unis qui feront peut-être l'espace d'un court instant oublier à Donald Trump les révélations qui s'enchaînent ces derniers jours sur son comportement au sommet du pouvoir et sur sa vie à la Maison-Blanche depuis qu'il est élu. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir Benoît Bouscarel.
Il est vrai qu'à l'approche des élections de mi-mandat, le président des États-Unis bénéficie de bons chiffres publiés aujourd'hui sur l'emploi et donc sur les salaires, des statistiques qui ne feront toutefois pas oublier d'autres chiffres sur le commerce extérieur un peu plus poussif, cela Jean-Marc.
En effet, il y a une double moisson de chiffres, les uns prospères, les autres plus délétères. Déjà, il y a un indicateur qui manquait de panache jusqu'à présent dans la vitrine économique américaine, et bien c'est l'augmentation des salaires. Elle a mis du temps à revenir, elle est revenue bien timidement et voilà qu'elle s'est mise à accélérer, la voir frôler les 3%, proche d'un taux qu'on n'a pas revu depuis 10 ans. Ça ne peut que gonfler l'optimisme ambiant, un signe en tout cas que les entreprises tournent bien à plein régime quasiment. 201 000 créations d'emplois, c'est-à-dire 25% de plus qu'en juillet. Il y a de la demande dans l'air, mais en même temps, les entreprises ont de plus en plus de mal à pourvoir certains postes, alors elles lâchent sur les salaires pour retenir une main-d'œuvre qualifiée. Résultat encourageant, à ceci près que ce regain salarial, il épouse la courbe de l'inflation, laquelle a grimpé de 2,9%, donc pas de gain salarial au bout du compte. Ensuite, c'est dans les services, le commerce que se dessinent les créations d'emplois, peu dans l'industrie, comme le voudrait aussi Donald Trump. Et surtout, l'accélération de la croissance se fait sur le rebond de baisses d'impôts massives qui ont pour contrepartie une nouvelle aggravation du déficit budgétaire. Voilà qui est plus inquiétant quand arrivera l'heure du retournement et plus perturbant encore peut-être le fait que le déficit commercial américain continue de se creuser à 50 milliards de dollars et singulièrement avec la Chine atteignant de nouveaux records, ce qui signifie que la bataille du protectionnisme est loin d'être gagnée pour Washington.
Merci beaucoup Jean-Marc Chardon. En France, victoire judiciaire pour les salariés d'un établissement McDonald's des quartiers nord de Marseille. La vente de l'établissement qui était prévue par la multinationale et sa transformation en fast-food asiatique halal a été annulée par le tribunal de grande instance de Marseille. 6 autres établissements, en revanche, pourront être vendus. Toujours à Marseille, mais dans la page politique de ce journal maintenant, la campagne européenne d'Emmanuel Macron qui reçoit cet après-midi la chancelière allemande Angela Merkel au palais du Pharo. Il s'agit de parler d'Europe et des élections de l'an prochain, ce que le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a qualifié cet après-midi de contre-humaniste, tente de muscler leurs campagnes respectives. Sur place à Marseille, Bertrand Galichet.
Les sujets migratoires, la ville de Marseille les connaît, vient de dire Emmanuel Macron en préambule à ce sommet avec la chancelière allemande, arrivé ici au palais du Pharo il y a tout juste une demi-heure, tant il est vrai que les tensions sur l'immigration en Europe mettent les deux dirigeants sous pression. car cette question pèsera lourd aux prochaines européennes. Angela Merkel, apparemment très détendue, malgré les attaques répétées ces derniers jours de son propre ministre de l'Intérieur, vilipendant la politique migratoire de l'Allemagne. Marseille est une partie importante de la France, insiste la chancelière, bien consciente que le choix de la cité phocéenne pour cette rencontre n'est pas un hasard. Un sommet qui vient de commencer par une réunion en tête-à-tête, élargi ensuite aux conseillers. Pendant 2 heures, Emmanuel Macron et Angela Merkel vont préparer l'avenir, selon les termes du président français, donc tenter de trouver des solutions pour fédérer l'Europe progressiste face aux tenants d'un repli nationaliste. Même si d'autres sujets comme le Brexit sont à l'ordre du jour, c'est la gestion des flux migratoires et la solidarité européenne sur cette question qui sont en ce moment au cœur du débat franco-allemand.
Marine Le Pen, elle faisait sa rentrée politique à la foire de Châlons en Champagne aujourd'hui. C'était son premier déplacement depuis l'été, au cours duquel elle a semblé se targuer d'être une nouvelle fois convoquée par les juges dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Avec les juges, a-t-elle dit, le pire est toujours sûr. Reportage Maxence Lambrecq.
D'un pas déterminé, elle arpente les allées de la foire et sourit à tous ceux qu'elle croise. Accueil courtois, voire même chaleureux.
Ça fait plaisir de vous voir. Ça va ou quoi? Vous êtes en balade à Châlons?
Exactement.
Venez nous voir un peu en Bretagne, là aussi, hein. Pensez-y, hein.
Cet été, Marine Le Pen nous a confié avoir reçu une toute autre invitation, convoquée chez les juges dans l'affaire des assistants au Parlement européen. Marine Le Pen ira bientôt s'expliquer à nouveau devant les magistrats.
Nous prenons ça avec beaucoup de sérénité. Et ils n'arriveront pas à leur fin. Parce que la volonté des Français de sauver leur pays est irrépressible. Alors qu'ils continuent, qu'ils multiplient les persécutions, nous, on sera toujours là où nous devons être, c'est-à-dire aux côtés des Français.
Et elle ajoute en privé, peut-être que ces juges vont me condamner à mort à titre conservatoire. Ce qui est plus probable, c'est que la mise en examen de Marine Le Pen soit élargie à d'autres chefs d'inculpation. Elle semble s'en moquer et ne dramatise que la situation financière du parti, sans doute pour relancer l'appel aux dons. On ne peut plus rien faire, si ça continue, nous allons mourir, dit-elle. Elle exagère un peu, reconnaît un élu, mais bon, on a l'habitude. Marine Le Pen n'a visiblement pas changé pendant ses longues vacances.
Maxence Lambrecq, François Fillon de nouveau chez les juges d'instruction à Paris aujourd'hui. C'est la suite logique de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs dont auraient bénéficié son épouse et ses enfants. Affaire pour laquelle Pénélope Fillon, sa femme donc, a également été entendue pas plus tard qu'hier. Une forme de résistance s'organise du côté des recalés de Parcoursup. Plusieurs organisations ont proposé aujourd'hui un service d'aide juridique aux candidats refusés sur la plateforme d'orientation post-bac. L'idée est de les aider à faire valoir leurs droits via un site internet spécialement mis en place pour initier ce qui pourrait s'apparenter à de véritables actions de groupe contre Parcoursup. Lila Lebas est la présidente du syndicat étudiant UNEF, une des organisations à l'origine de l'opération. Elle répond à Sonia Bourhan.
Sur le site, il y a un questionnaire qui est à remplir avec tout simplement les éléments qu'on a fait sur Parcoursup, le nombre de vœux, dans quelle filière on voulait s'inscrire, quand est-ce qu'on a été refusé, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on est directement mis en lien avec un avocat du SAF, donc du syndicat des avocats de France, pour pouvoir avoir des discussions sur des informations plus précises qu'on ne demande pas sur la plateforme, mais du coup avoir un lien direct avec un avocat pour pouvoir faire un recours. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'automaticité. Un jeune qui a reçu des noms dans l'ensemble de ses vœux en attente le 5 septembre au soir n'a pas eu de nom notifié. Pourquoi il a été refusé? Et donc chaque jeune doit faire une demande. Nous, ce qu'on leur propose, c'est de faire une demande en urgence, c'est-à-dire avec justement des avocats pour avoir des réponses rapides et pour faire en sorte tout simplement de savoir. Et donc évidemment que c'est lourd, mais c'est un outil juridique. Évidemment, c'est des dispositifs qui prennent du temps, mais c'est un outil juridique pour pouvoir mettre la pression aussi au ministère et pour faire changer la plateforme pour l'année prochaine, pour les futurs lycéens, les futurs bacheliers, les étudiants qui voudront se réorienter, pour qu'ils aient, eux, accès automatiquement à ces informations.
Voilà, et ce site mis en place par l'UNEF, l'UNL, la FCPE et le SAF, le syndicat des avocats de France, est accessible via l'adresse sos-inscription.fr. En Guyane, un des dossiers chauds qui attend le nouveau ministre de l'écologie, François de Rugy, celui du projet dit de la montagne d'or, financé par des multinationales russes et canadiennes, l'exploitation de mines d'or dont les conséquences environnementales ont fait monter au créneau les défenseurs de l'environnement. Nicolas Hulot y était opposé, mais Emmanuel Macron, lui, ne cache pas son soutien au projet. En attendant la décision gouvernementale, la Commission nationale du débat public a rendu son rapport aujourd'hui après consultation de la population guyanaise. Sa présidente, Chantal Joanneau, a livré à Véronique Robérotte les enseignements principaux qu'elle tire de cette consultation publique.
Traditionnellement, effectivement, dans les débats publics, ce sont les opposants qui sont visés le plus. Mais là, ce qui nous a frappé, c'est que les partisans étaient quasiment absents. Alors, on ne sait pas l'expliquer, hein, est-ce qu'ils sont minoritaires ou pas, mais ils ne sont pas venus s'exprimer pendant ce débat public. Et l'autre élément très frappant, c'est que tous les arguments d'opposition, qui sont des arguments assez classiques, en parallèle recouvrent beaucoup les clivages de la société guyanaise. Donc, on a beaucoup ressenti une forme de hiérarchie interne dans la société guyanaise.
Par ailleurs, sur la faisabilité du projet, qu'est-ce que vous retenez de ce débat public? C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y avait pas assez d'informations sur les éléments environnementaux?
Oui, on en retient qu'il y a eu énormément de questions sur les impacts environnementaux et que le dossier était très léger, voire vide sur ce sujet. On intervient très en amont, donc ils n'ont pas toutes les études d'impact. Ceci dit, un maître d'ouvrage nous donnera tous les éléments économiques, et il est vrai qu'ils sont en général assez avares de détails sur les éléments environnementaux. Or, c'était une très forte demande de la population. Mais surtout, grosso modo, le plus intéressant, c'est qu'il n'y a aucun consensus local sur l'exploitation ou non des mines d'or en Guyane et sous quelles conditions. Et donc, plutôt que de faire ce débat, il aurait été plus intelligent et plus utile de faire un débat un petit peu en amont sur est-ce qu'on exploite les mines d'or en Guyane et comment on les exploite.
Chantal Joanneau répondait aux questions de Véronique Robérotte. L'économie du faux dans le monde de l'art en France serait-elle en plein boom? À 18h16 sur France Culture, voici l'enquête de cette édition avec Philippe Reltien. Bonsoir.
Bonsoir.
Du service investigation de Radio France. On se souvient, Philippe, qu'en avril dernier avait éclaté un scandale du côté de Collioure dans les Pyrénées-Orientales où les collections du musée d'Elne avaient été déclarées gangrénées par des faux à 60%, les contrefaçons portées sur le travail d'Étienne Térus. Alors vous avez voulu en savoir plus et vous vous êtes rendu compte, Philippe, que le faux touche de manière générale une grande partie du marché de l'art.
Oui, des faux, on en trouve partout, y compris d'ailleurs dans les grands musées. C'est ce que m'a confié un des plus grands faussaires français. Il s'appelle Guy Ribes. Il a signé des milliers de faux ou copié de nombreux grands maîtres de la peinture et il se vante d'avoir pu en placer dans de grands musées français ou britanniques.
J'en vois régulièrement sur la gazette de mes tableaux. Je les reconnais tous et ils sont certifiés. Il y en a même dans les musées qui ont mes initiales dans les bouquets de fleurs. Il y a des Chagall qui sont dans des musées qui, dans le bouquet de pleurs, il y a mes initiales GR. Il n'y a que moi qui le sais.
Bon, cela dit, Philippe, ces faux restent une minorité.
A priori, oui, et heureusement. Mais ce qu'on voit se développer de plus en plus, c'est une sorte d'industrie du faux tableau low cost. Des peintres cotés 200, 500, 1000, parfois 2000 euros, et qui sont eux aussi copiés. Ainsi, à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, là où a éclaté l'affaire Térus, Robin Dominois, un expert local qui a sa propre galerie, a lui repéré des faux anicotes, un célèbre aquarelliste.
Je décèle les premiers faux qui sont des anicotes dès 2008, sur des ventes aux enchères du département. Donc je pense que l'arnaque a entre 10 et 15 ans. Il y a 15 jours, on m'a présenté un Étienne Gony, ça vaut 200 euros. Faux. Totalement contrefait. On fait des contrefaçons pour 200 euros maintenant.
Et ces contrefaçons, vous pouvez les trouver en galerie, sur les marchés, beaucoup sur Internet, sur eBay ou sur Le Bon Coin.
Mais alors cette industrie du faux low cost, Philippe, est-elle vraiment en plein boom?
Eh bien, il n'est pas simple de répondre à cette question parce qu'il n'existe pas de recensement national de ces faux. La question, je l'ai posée à Corinne Chartrel, qui est à la tête de l'OCBC, la police judiciaire des œuvres d'art. Pas de chiffres parce qu'il n'y a pas de base statistique nationale, mais clairement de plus en plus d'affaires à traiter depuis 10 ans et par 15 enquêteurs seulement. Et si vous interrogez quelqu'un comme Éric Fourcade, qui est historien de l'art catalan, lui vous dira qu'on ne voit sans doute aujourd'hui que la partie émergée de l'iceberg et que l'affaire Térus d'Elne, à laquelle je faisais allusion, ne serait que le début d'un énorme problème.
Ce qu'on voit au bout de 10 ans, c'est le mal qui a été fait aux collections privées, qui rejaillit sur les collections publiques, qui demande aux privés de prêter des pièces pour être exposées. Ces pièces-là sortiront de ces maisons dans 70, 80 ans, après une succession ou deux. Donc on ne se rendra compte des méfaits de cette crise du faux que dans 80 ans.
Mais alors, Philippe, comment se fait-il que des galeries vendent des faux? Elles sont censées consulter des experts.
Oui, le problème, c'est que tout le monde peut se prétendre expert. On a vu que dans l'affaire Térus, un expert a authentifié des faux qui semblaient pourtant très grossiers. Et c'est pour ça que l'ex-faussaire Guiri pense qu'il faudrait réformer tout le système.
Ce qui serait logique, c'est de faire une école formée des experts nationaux, des fonctionnaires, qui sont pas marchands, qui sont spécialisés dans une forme d'art, de certains peintres, et ainsi de suite, mais carrément spécialisés à mort. Un expert serait un véritable expert. Alors que là, c'est une mafia.
Bon, mafia, on lui laissera son vocabulaire. Hein. Maintenant, précisons tout de même que l'État s'apprête à créer un titre officiel d'expert en art. Des experts haut de gamme, en quelque sorte, qui devraient être au-dessus de tout soupçon.
Merci Philippe Reltien. Votre enquête sur le faux low-cost qui gangrène le monde de l'art est à retrouver en longueur sur franceculture.fr. Un temps bien ensoleillé demain à peu près partout. Quelques risques de nuages, voire d'ondées au nord de la Loire, mais à des températures partout en hausse de 20 à 26 degrés sur la moitié nord, de 24 à 30 degrés sur le sud.